DW, 77%. Nous, les jeunes d'Afrique.
Bonne arrivée à toutes et à tous dans ce nouveau magazine de 77% consacré à la jeunesse africaine. Le monde semble fasciné par la culture et le design africain. Mais alors, pourquoi l'industrie de la mode du continent exporte peu ou pas du tout? Comment les partenariats commerciaux entre les jeunes d'Afrique et ceux de la diaspora peuvent-ils aider à vulgariser les créations africaines? On en parle dans ce nouveau numéro de 77%, nous les jeunes d'Afrique. Maison Evig, vous êtes malvoyant, créateur de mode, producteur et réalisateur. Vous êtes aussi le concepteur de la marque de vêtements Madison Color avec l'image d'un bébé à la peau métissée. Cette image nous renvoie évidemment dans une large mesure au dialogue des cultures. Mais dans quelle mesure les jeunes d'Afrique et ceux de la diaspora peuvent-ils s'associer pour vulgariser l'industrie de la mode africaine?
Pour moi, c'était déjà, vu que moi-même je suis africain, je suis né au Cameroun, même si mon père était américain, moi j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui reprend vraiment, on va dire, le monde entier, mais aussi mon continent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises africaines qui sont là depuis 100 ans. Et c'est pour ça que je me suis dit un jour, j'aimerais créer une marque qui sera accessible à tout le monde, mais je voulais aussi que l'Afrique ait une icône. Et c'est pour ça que j'ai créé ce bébé qui s'appelle Madison. Voilà, c'est un bébé qui a la peau métissée, qui a les yeux bleus, bridés, avec une mèche blonde. En fait, j'avais envie que tout le monde puisse s'identifier dedans, mais surtout que la jeunesse africaine retrouve aussi une icône qui sera à leur effigie, à leur image, un bébé qui représente le symbole de la tolérance, l'innocence, et puis notre combat. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les Africains sont beaucoup trop mis de côté, alors que nous sommes aussi des très bons créateurs. On entend beaucoup parler de toujours les mêmes. Et j'espère que la jeunesse en Afrique va se battre pour que leur création puisse sortir de l'Afrique pour aller un peu partout dans le monde.
Ce que vous avez pu, en tout cas pour le moment, réussir à faire. Notre second invité est Aïssinga Joseph-Marie, également styliste et créateur de vêtements. Aïssinga, vous avez créé la marque Wazal en 2005 et depuis 2006, vos modèles sont portés par certaines célébrités du continent africain telles que le chanteur Singila. L'Afrique est l'une de vos sources d'inspiration. Donc, comment la mode africaine peut-elle impulser le développement des initiatives jeunes sur le continent?
La mode à l'heure actuelle a tellement évolué à un certain niveau. Pour plus valoriser la mode à l'heure actuelle, il y a pas mal de choses à faire en Afrique. Parce que la dernière fois quand j'y suis allé, il y a certains qui n'étaient pas formés. Il fallait soutenir certains. Et après, j'ai eu à faire des collaborations avec deux stylistes sur place pour les montrer un peu comment ça se passe. Les patronages, pour faire des bustes. C'est vrai que ça n'a pas été facile. On a quand même pu évoluer. Et à l'heure actuelle, je collabore avec le styliste Louis Femme. Et on a eu à créer un concept à l'heure actuelle qui s'appelle les esprits de la nature.
Alors, Maison Evig, comment les jeunes créateurs africains doivent-ils travailler sur des produits justement made in Africa pour mieux positionner les textiles traditionnels africains?
Moi, pour être honnête, je ne connais pas assez l'Afrique. Moi, je suis parti du Cameroun, j'avais 6 ans, c'était en 89. Et la première fois que je suis retourné, c'était en 2017. C'était vraiment pour moi quelque chose de magnifique, le Cameroun. J'étais très content, mais je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on en donne les moyens. Moi, ce que je voudrais voir, c'est de créer des ateliers au Cameroun, même partout en Afrique, qui va permettre aux jeunes de prendre des cours. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents au Cameroun. Moi, ça, je le sais. On n'a rien à envier les autres, mais malheureusement, le problème, c'est que les outils, ils ne les ont pas. Il manque des bons outils pour qu'ils puissent travailler. Et aussi, la motivation, parce que l'art, la culture n'est pas assez soutenue en Afrique. Et on le sait très bien. Et donc, je pense que c'est pour ça que justement, qu'il a eu des problèmes là-bas, parce que moi aussi j'ai eu des problèmes au Cameroun. Mais je pense que l'Afrique va évoluer, il y a beaucoup de choses à faire, et je pense que les jeunes aujourd'hui sont en train d'apprendre. Il y en a beaucoup qui viennent en Europe, aux États-Unis, qui vont au Canada, justement même en Allemagne, dans le but d'acquérir de l'expérience, et après justement retourner dans leur pays, dans leur continent pour faire évoluer Afrique.
Aïssinga, Joseph Marie, de plus en plus de créateurs africains ont presque tous une double culture occidentale et africaine qui leur permet aussi d'avoir une vision un peu plus large ou beaucoup plus large en termes d'esthétique, mais aussi en termes de business. Mais comment un jeune de Douala, d'Abidjan ou encore de Dakar au Sénégal peut-il être associé à une telle expérience?
C'est vrai qu'il manque beaucoup d'infrastructures pour essayer de créer. Pour moi, la mode, elle est universelle. Un créateur s'inspire de ce qui l'anime. Il peut s'inspirer de l'Afrique ou de l'Europe ou d'autres pays. Par contre, il peut faire des mixages. Après, c'est à lui de voir s'il veut vendre qu'en Afrique ou à l'extérieur.
Alors, comment faire pour positionner les textiles traditionnels africains concrètement?
Quand on parle du textile africain de base, c'est les étoffes des tisserands. Parce que la plupart des stylistes sur place, ils travaillent plus avec du wax.
Mm-hmm.
Quand on vous regarde à l'heure actuelle, le wax, il n'est pas africain.
Il est fabriqué en Europe, renvoyé en Afrique.
Il est fabriqué en étranger. Et j'ai eu à parler avec certains stylistes, ils me disent ceci, que c'est coûteux. Mais je les ai dit, tôt ou tard, il faut qu'on valorise nos propres tissus.
Mm.
Et c'est ça qui va nous envoyer au devant de la scène.
Et comment valoriser nos propres tissus en Afrique et en Europe?
Mais déjà, il faut déjà soutenir déjà les tisserands. Quand on parle de les soutenir, chercher à faire des collaborations avec eux et essayer de faire des créations, mais des créations aussi qui sortent de l'ordinaire.
Mmh.
Mais c'est un peu cette démarche que je suis en train de faire à l'heure actuelle.
Ouais, vous habillez, je le disais en début d'émission, quelques célébrités africaines. Mason Eving, vous qui avez une histoire très particulière en tant que jeune malvoyant, vous avez réussi ou beaucoup d'autres ont échoué dans le domaine de la mode, mais aussi de la production. Mais alors, comment la filière de la mode africaine est-elle une opportunité pour les jeunes du continent?
Oui, mais pour ça, il faudra peut-être qu'ils aient la chance de rencontrer des bonnes personnes qui pourraient leur donner l'opportunité d'y arriver. Parce que moi, je me suis rendu compte en venant au Cameroun que la mode, il y a beaucoup de créateurs, mais malheureusement, les créateurs africains ne sont pas connus même en Europe, ils ne sont pas connus en Afrique. Et même au Cameroun, je veux dire, ils font des, pourtant, il y en a qui font des très, très belles choses. On va entendre parler un peu d'eux. Et malheureusement, aujourd'hui, on a besoin d'une vitrine. Quand on veut se lancer dans le milieu artistique, quand on veut se lancer dans le milieu de la mode, ça, c'est important. Donc voilà, moi, l'Afrique, je ne connais pas assez, mais je suis en train de le découvrir. Et pour moi, c'est un plaisir. Mais je sais que c'est aussi pour ça que je veux, par exemple, ma marque, il y a une particularité, c'est que dessus, c'est la première marque de vêtements au monde avec du braille. Je veux aussi que la marque soit adaptée aussi pour les personnes aveugles, parce que des aveugles, il y en a partout, en Afrique, justement, en Allemagne, en France, aux États-Unis. Voilà, c'est une de mes cibles aussi. Il y a l'Afrique, mais il y a aussi le handicap. Et c'est vrai que l'Afrique est très en retard au niveau du handicap. Et moi, c'est mon combat, par exemple.
Oui, votre combat, c'est permettre à tout un chacun de pouvoir s'épanouir aussi à travers, justement, la mode. Aïssinga, vous êtes aussi, en dehors de votre activité de styliste couturier, auteur d'une bande dessinée en cours de réalisation intitulée « La légende de Wasal », du nom de votre marque de vêtements. Alors, pourquoi les jeunes stylistes africains doivent-ils s'approprier d'une telle légende?
Parce que dans la légende de Wasal, je valorise la plupart de toutes les, je peux dire toutes les ethnies africaines parce que ça m'a inspiré. Et je valorise ici les étoffes comme telles que l'ondep, c'est un tissu bamiléké. Dans ce tissu, il y a des messages géométriques. On parle de paix, fécondité, réincarnation, modernité. J'ai eu à récolter la plupart des messages pour en faire une histoire. Donc c'est un peu ça. Parce qu'il y a certains qui connaissent que les tissus de nom, mais ils ne savent pas les messages qu'il y a derrière ces tissus.
Mmh.
Ce sont les ancêtres qui ont laissé ces tissus.
Mason Eving, vous avez également écrit un livre intitulé « Les yeux du destin » qui existe déjà en version française. Racontez-nous un peu l'histoire de cette œuvre.
Parce qu'en fait, j'avais envie de raconter aux gens mon histoire, de faire comprendre que même si j'ai souffert, aujourd'hui, moi, j'ai avancé. Que malheureusement, j'ai peut-être perdu tout parce que c'est vrai, j'étais maltraité, j'étais battu, j'étais brûlé, j'étais séquestré. On a mis du piment dans les yeux, dans le sexe. À l'âge de 14 ans, je tombais dans le coma. On m'a amené à la morgue. Une heure après, je suis revenu à la vie. Mais ce qui était important pour moi, c'est que je n'oublie pas, c'est que même si j'y m'arrivais tout cela, et pourtant j'ai perdu mon père, ma mère, mes deux frères, mais je suis toujours là.
Mmh.
Et j'ai vécu des choses assez atroces. J'étais SDF, je me suis retrouvé à la rue à 19 ans. Mais pour moi, c'était avoir perdu la vue était la plus belle chose qui m'était arrivée. Et avoir perdu la vue, c'est la vue était ma force en fait d'être devenu non-voyant. Et souvent, je dis, je vois beaucoup mieux que les voyants. Et c'est pour ça que je suis ravi, parce que grâce à mon livre, ça m'a permis d'avancer aussi. J'ai pardonné aux gens, et c'est ça qui est le plus important. C'est ça mon message dans mon livre qui s'appelle « Les yeux du destin ». On va le mettre prochainement en anglais. Et on a fait un livre audio pour les personnes aussi qui sont aveugle, c'est important pour nous.
Voilà, on va revenir à la mode rapidement avant de nous quitter. Alors, Mason Eving, organisez-vous aussi des défilés de mode? Avez-vous besoin parfois des mannequins africains, de jeunes africains, et comment vous vous y prenez?
Effectivement, moi j'organise, j'en ai déjà organisé, là je suis un monde de défilé puisque j'ai commencé mon tout premier en 2006. D'ailleurs, j'ai fait défiler la Miss France qui a porté ma dernière robe de mariée, une dernière robe de mariée, Rebecca Ayoko, l'égérie du Saint-Laurent. Et là, mon prochain défilé sera l'année prochaine aux États-Unis et après en Italie. Et j'en ai un autre pour le prince que je dois organiser, pour la collection du prince Albert, la collection Grace Kelly, à Monaco. Mmh. Donc voilà, donc oui, effectivement, ça pourrait m'arriver. Moi, de toute façon, dans mes défilés en général, moi, je fais défiler des mannequins handicapés, je fais des défilés des mannequins toute origine, noirs, arabes, blancs, chinois. Pour moi, chez moi, il n'y a pas d'Africains, on est tous de la même planète. Donc je donne une chance à tout le monde. Et surtout aussi, ce que je privilège dans la société, c'est le côté humain. S'il n'y a pas d'humanité, ça ne m'intéressera pas. Moi, je connais les gens avec qui je travaille et ça, c'est important. Et je pense que ça, c'est la chose la plus importante. En tout cas, chez nous, c'est comme ça que je procède. Ça, c'est ma règle. Après, avoir un mannequin africain ou un mannequin blanc ou un mannequin asiatique, tant qu'il a le potentiel, ça ne me dérange pas. Moi, je dis oui à tout le monde. Donc, et ça, c'est important. Surtout que c'est une marque que j'ai créée pour rendre hommage à ma mère. Et en plus, cette marque, comme je disais, c'est la première marque de vêtements au monde avec du braille. Parce qu'aujourd'hui, c'était important que les aveugles aussi puissent savoir ce qu'ils portent sur eux. Donc, il y a le braille qui permet de dire la couleur du vêtement touché et la taille. Donc, c'est ça. Et l'année prochaine, justement, 2021, beaucoup de surprises pour la collection Madison Color et aussi une collection de couture.
Merci beaucoup, Mason Eving. Je rappelle que vous êtes malvoyant, créateur de mode, producteur et réalisateur. Merci à vous également, Isinga Joseph Marie, styliste et créateur de vêtements de la marque Wasal. Merci enfin aux auditeurs de la radio internationale allemande, de la DW, d'avoir été des nôtres. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez la podcaster à volonté sur notre page dw.com/français sans la CDI. À très très vite sur la DW. Laisse-moi devenir ton super. Commence par me donner ton numéro. Puis sois la mère de mes enfants. Avec moi, jamais tu t'ennuies. Tu vas crier de midi jusqu'à minuit. Et comme il faut pas réveiller les petits, on les laissera chez la maman. Tu redonnes vie à tous les lits.